Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h en direct sur Aligre FM 93.1. On est très 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 heureux de vous retrouver sur la bande FM. Alors, cette émission est réalisée aujourd'hui par Charlie Clovis et au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, on parlera d'un livre qui s'intitule « L'horreur managériale, gérer, instrumentaliser, détruire ». C'est signé Étienne Rodin et c'est paru aux éditions L'Échappée. Un livre passionnant. Passionnant parce que quand on parle management, on pense qu'on va plonger au cœur de l'entreprise. Là, on plonge non seulement au cœur de l'entreprise, mais surtout au cœur de la société qui est devenue une vaste entreprise. Étienne Rodin est sociologue, il est lui-même consultant pour des entreprises et des institutions dans différents secteurs d'activité. On l'aura au téléphone vers 8h30. Mais tout de suite, on commence cette émission en musique avec Exil, Bernard Lavilliers.
Elle m'appelle et me fascine. Elle a laissé très loin ses îles, la mer. Grande marée et grand naufrage, c'est une idée du fond des âges, la mer. Elle est la voix des trépassés, sur les brisants la nuit tombée, la mer. Elle rassure ou elle fait peur, elle est de toutes les couleurs, la mer. Quand je déroule sur sa plage, mon corps fatigué de sauvage, la mer. Elle me raconte qu'avant moi, d'autres hommes ont perdu la voix sur terre. Sa voix, son tempo et les sirènes des cargos dans l'air. Ces quelques mots pour Atlantide, à l'heure où la vie est liquide, amen. Très loin des foules inutiles, la mer. Avec ce charme contagieux qui convient aux aventureux très fiers. Tu ne te répètes jamais, et c'est pour ça que tu me plais, la mer. Quand vous recevrez cette lettre, je serai sûrement très loin en mer. Alors que l'écho de mon chant vienne sur vous en dérivant dans l'air. Mes amis, prenez en cadeau les belles des bars à tango de Buenos Aires. Et si y a un trésor caché. Il est moins beau que l'amitié, mes frères. Recevrez cette lettre, je serai sûrement très loin en mer.
Avec nous, nous avons Étienne Rodin. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes l'auteur donc de ce livre, L'horreur managériale, gérer, instrumentaliser et détruire, qui est paru aux éditions L'Échappée. Alors vous-même, vous êtes sociologue et consultant pour des entreprises et des institutions dans différents secteurs d'activité. C'est ce que je lis sur la quatrième de couverture du livre. Alors avant qu'on parle du livre, consultant pour des entreprises et des institutions, en général, ce sont des gens qui conseillent les managers. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors, c'est un peu le cas, effectivement, sauf que je les conseille sur un segment bien particulier d'activité qui est axé sur les questions de santé au travail. Donc, c'est aussi
d'accord.
Un bon point, un bon observatoire pour voir aussi les conditions dans lesquelles les salariés aujourd'hui sont, les salariés, mais aussi les agents du secteur public, sont managés, justement.
D'accord.
Donc, c'est un excellent point d'observatoire pour quelqu'un qui aime être sur le terrain et voir ce qui se passe aussi réellement dans les entreprises et les institutions publiques.
D'accord. Donc c'est pour ça que dans le livre, vous insistez sur ce point d'ailleurs, quand vous dites pour bien manager, enfin manager de manière efficace, avec plein de guillemets, vous dites changer de médecin du travail qui remettra au pas et au travail tous ces inaptes et ces invalides. Donc vous savez de quoi vous parlez. Alors avant de parler réellement du livre, j'ai bien aimé, page 10, vous dites les organisations sont vaniteuses et peureuses, comme toutes les institutions, elles cherchent à assurer leur pérennité en recourant notamment à cette forme de raison instrumentale que représente la bonne gestion. Alors, vous faites une analogie avec ce qu'on entend en ce moment sur les fameux marchés financiers. Toutes ces institutions sont maintenant dotées de raison et dotées d'une autonomie propre qui rend le management, qui rend la rigueur comme des choses absolument sans alternative.
Disons que il existe aujourd'hui une pression forte effectivement des financiers sur la gestion même des entreprises, si bien que une entreprise n'a pas pour unique finalité de se pérenniser sur le marché de ses produits, mais aussi d'être rentable pour ses actionnaires. C'est banal que de le dire, on le voit aujourd'hui de manière extrêmement forte. Et par exemple, une des charges pour une entreprise, c'est sa masse salariale. Donc plus une entreprise, je dirais, diminue sa masse salariale, plus elle diminue un coût, mieux elle se porte sur les marchés financiers, parce que sa rentabilité va pouvoir être meilleure, nous dit-on. À court terme, voilà, tout à fait. Donc, d'un point de vue managérial, ça implique un principe de management, c'est lequel est de faire plus avec moins. Je dirais que c'est toute la recherche d'efficience. Le terme d'efficience est un mot qu'on entend aujourd'hui partout et dans tous les secteurs presque. Et donc voilà, comment faire plus avec moins, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut à un moment donné exercer une pression forte pour que les gens produisent plus avec moins de moyens, moins de temps, et fassent rentrer dans un même volume de temps plus de choses, tout ça étant accéléré avec les nouveaux moyens de communication comme Internet, les technologies portables et mobiles qui on peut emmener chez soi dans les transports en commun, partout. C'est-à-dire que le travail et le principe de rendement est en train de pénétrer des logiques, des dimensions à la fois publiques, privées de la société, et tout cela exerce une pression assez forte sur les psychismes.
Mmh. Vous parlez notamment de la peur, on y reviendra. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que quand on lit ce titre, l'horreur managériale, on pense qu'on va rentrer à l'intérieur de l'entreprise. Et avec votre livre, on rentre pas simplement à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'intérieur de toute la société. C'est-à-dire que c'est pas seulement les entreprises qui sont gérées de telle manière, c'est l'ensemble d'une société, d'un système de pensée qui n'est pas limité à l'intérieur de l'entreprise. D'ailleurs, on dit manager pour manager sa vie, pour manager ses amours, voilà. Pour manager un peu tout.
Tout à fait. Le principe en fait de gestion est devenu partie intégrante de la vie quotidienne des individus, des sociétés, on va dire post-modernes. Et aujourd'hui, toutes les dimensions de la vie sont touchées, affectées par ce principe-là. Le plus évident, c'est la pratique sportive. Mais aussi, il suffit d'ouvrir un magazine masculin ou féminin pour voir que tel ou tel produit équivaut à tant de calories et que finalement, l'alimentation devient aussi un principe qu'il faut gérer, une activité qu'il faut gérer pour pouvoir être en bonne santé, avoir un capital corporel utilisable au mieux. Et finalement, le principe de rendement devient presque un principe, une espèce de diététique sociale assez paradoxale, parce qu'en même temps, elle introduit de l'anxiété, elle introduit du malaise, elle introduit de la peur aussi. Et on est dans des sociétés à la fois très sûres d'elles-mêmes, parce que on a une arrogance assez forte qu'on veut un peu montrer au monde entier. Ce sont notre soi-disant richesse, notre principe de croissance, notre niveau de développement. Et en même temps, nous sommes des sociétés très peureuses parce que au quotidien, on est dans un calcul permanent et dans une recherche d'efficience qui est aussi une source de malaise et le signal d'un malaise assez profond sur l'existence. Comme si vivre n'allait plus de soi, il fallait toujours démontrer que nous sommes des gens performants, et ce, dans tous les domaines d'activité.
Oui,
et même à tous les âges de la vie.
Absolument. Et surtout, ce principe de management, il y a quelques éléments qui sont sous-tendus et qui sont très inquiétants. Et le malaise vient peut-être du fait que au fond, on a tous plus ou moins conscience que tout cela est faux. C'est-à-dire que ça sous-tend une croissance infinie et permanente. On vit dans un monde fini, ouais. Malgré tout, on en a à peu près tous conscience. Donc, il y a quand même une sorte de dissonance cognitive là, qui ouais. Crée peut-être aussi ce malaise. Et puis, ça crée aussi, on voit bien la masse salariale et les salaires comme variable d'ajustement. Bah, ça crée une déficience de la demande. C'est-à-dire que malgré tout, les entreprises qui sont censées vendre des produits, même si c'est surtout des bénéfices financiers. Qu'elles font, ces bénéfices sont quand même plus ou moins dépendants de leurs résultats réels en termes de vente et en termes de production. Et si elles ne sont plus capables d'écouler leur production, bah, il va finir par y avoir un problème à moyen ou long terme. Et ça aussi, c'est oui. Quelque chose qui est perçu, même si ce n'est pas dit, et surtout pas dit.
Oui, tout à fait. En fait, il y a une forte mystification autour de tout ça, qui tient au fait aussi, c'est qu'on n'a plus vraiment de projet collectif, à la fois politique, mais aussi sociétal. Si bien que le management va nous faire penser que, de toute façon, les choses ont toujours fonctionné sur le principe de croissance et tout cela va pouvoir durer. Or, on est à une époque où on vit, on est amené à vivre des transitions au plan écologique, au plan économique, et finalement le management vient nous générer un écran de fumée qui va nous faire penser que il suffit, qui veut peut, hein, c'est un peu ça, hein, il suffit de faire preuve d'un volontarisme particulier pour que les choses continuent comme avant. Et finalement, le management, l'un des paradoxes du management, c'est comment changer sans rien changer. L'accompagnement au changement est le terme préféré des managers. On change d'organisation tous les 3 ans, tous les 5 ans. On essaie d'être toujours en phase de développement et de trouver des principes de performance toujours nouveaux. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que fondamentalement, c'est plus comment maintenir un système que de véritablement le changer qui est l'objectif du management. Et tout ça, les managers s'en rendent compte. Et il suffit de poser un peu des questions pour s'apercevoir que personne n'y croit. Personne n'y croit, mais tout le monde est néanmoins contraint de faire avec et de faire comme si. Donc, effectivement, ça aussi, c'est une source de malaise et de mal-être, parce qu'on est quelque part dans une espèce de schizophrénie entre des gens qui sont tenus d'appliquer des consignes et des normes pour travailler et des gens qui savent très bien que, de toute façon, ces normes-là sont inapplicables ou, au pire, contre-productives, c'est-à-dire qu'en les appliquant, on fait mal son travail. Donc, on on est dans une espèce, oui, de mystification générale, assez brutale quand même, parce que c'est pas seulement une fantaisie de l'imaginaire ou je ne sais quoi, c'est aussi un imaginaire qui a des incidences très concrètes.
Oui, sur le réel et sur la vie des gens,
oui,
des managers
sur le,
et
sur
aussi
le réel, sur la vie des gens, sur le psychisme des gens. Les conséquences peuvent être lourdes, tout à fait.
Et sur la vie même des... Bon, sans parler des managers qui, eux, trinquent le plus souvent et vivent dans la peur tout simplement de perdre leur travail, de ne pas en trouver, etc., etc. Mais les managers qui passent leur temps à faire savoir ce qu'ils font plutôt qu'à le faire, ça, vous le décrivez très, très bien. Et vous faites allusion, d'ailleurs, à ce livre de la romancière Flore Vasseur, Une fille dans la ville, qui parle d'HEC, enfin, des grandes écoles de commerce en général, et de ceux qu'on y forme. Et donc, il y a ce côté, on court après du vent et on nous apprend très jeune à courir après du vent, à faire semblant d'être surbooké, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez effroyable, comme vous le décrivez.
Oui, bah, tout commence à l'école, je dirais. Alors, à l'école, dans les écoles de commerce, c'est plus flagrant qu'ailleurs, mais je dirais qu'on est dans une tendance globale qui est même pour l'évaluation permanente des enfants dès le plus jeune âge, à la fois sur le mode comportemental, à la fois sur le mode des résultats scolaires. Donc, la recherche de performance dans la vie, elle commence très tôt. Alors, évidemment, il y a des lieux où tout cela se concentre et où l'idéologie s'applique et se forge, et ces lieux-là sont les écoles de commerce. Je dirais aussi qu'on est toujours le manager et le manager de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'on est dans des organisations hiérarchiques, et finalement, le manager manage ceux qui sont en dessous dans la ligne hiérarchique, mais il est aussi bien souvent managé par quelqu'un d'autre qui est au-dessus de lui, donc... C'est un peu le principe de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que toutes les responsabilités descendent. Et celui qui est au bas, effectivement, est celui qui est le plus passif dans la logique, au sens où lui, il n'a pas d'alternative. C'est-à-dire que son alternative, c'est d'appliquer les consignes ou alors de faire de la résistance comme les ouvriers le font, c'est-à-dire ce qu'on appelle le freinage, c'est-à-dire de produire moins, d'essayer de gagner du temps. Mais ça aussi, les technologies de production sont de plus en plus tendent à réduire cette capacité à générer des marges dans son activité pour souffler un peu. Mais le principe, c'est pas de désigner les coupables non plus, c'est de dire que c'est un système global auquel tout le monde croit. C'est un système qui s'auto-alimente au sens où son idéologie est diffusée dans des domaines très différents de la société, pas seulement le travail, mais aussi comme je disais, on peut presque parler de diététique sociale centrée sur le management. Et c'est le sport, c'est partout, hein, y compris ses vacances. Regardez les pratiques touristiques. Bien souvent, lors des voyages organisés, ce sont des plannings il n'y a aucune marge de manœuvre au sens où chaque minute est rentabilisée. Il faut en profiter. Cette logique-là, c'est aussi une logique managériale, finalement.
Oui, tout à fait. Mais alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment peut-on sortir de cela?
Comment peut-on sortir de cela? Alors, je pense qu'il faut déjà en prendre conscience, ce qui n'est pas si évident que ça, parce que tout est fait pour qu'on n'en prenne pas conscience et qu'on pense que cette façon de dire-là est universelle, a toujours existé, et voire même naturelle, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même. C'est quelque chose qui est issu d'un processus historique, avec, je dirais que le premier à avoir systématisé ça, c'est Taylor avec son organisation scientifique du travail.
Absolument.
Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le management s'appuie sur la technologie, mais s'appuie aussi sur la pensée scientifique, c'est-à-dire que la recherche de rationalité absolue dans la vie, c'est aussi un principe qui est à l'origine de la pensée scientifique. Et lorsqu'il s'applique à l'activité humaine, ça devient un principe de management où on recherche l'efficacité, l'efficience, le meilleur rendement, selon des normes scientifiques ou pseudo-scientifiques.
Oui,
donc,
ou tout simplement
du management, c'est aussi inventer une autre politique. C'est pas seulement une question d'organisation du travail, c'est aussi une vision du monde qui demande, alors pour en sortir, qui demande une certaine forme d'activisme politique et de libre pensée, au sens où il faut à un moment donné prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on nous inculque pour essayer de le mettre à distance et de le changer. Après, peut-être que les problèmes économiques que nous rencontrons aujourd'hui vont nous obliger, je dirais contraints et forcés, vont nous amener à revoir nos modes de fonctionnement. Alors ça, c'est c'est une logique un peu optimiste et peut-être un peu ingénue de ma part, mais parce qu'on peut aussi imaginer que dans un premier temps, ça nous conduise au contraire à durcir les conditions et à empirer les choses. Mais je crois qu'on arrive quand même au bout d'un système et que c'est l'occasion aussi de prendre ses distances vis-à-vis de lui. Mais c'est vrai que c'est un travail long, c'est un travail ardu, c'est un travail qui est politique, sociologique, philosophique, et pas seulement, ce n'est pas seulement qu'une question de gestion, finalement.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'un détour anthropologique, enfin, je ne sais pas, le fait d'aller voir ailleurs, si on y est, si des hommes y vivent autrement, pourrait être, alors évidemment, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais certaines expériences parfois d'autres modes de vie, d'autres populations, d'autres pays, notamment du Sud, peuvent nous apprendre des choses?
Oui, tout à fait. Je pense que le détour anthropologique, comme vous dites, c'est une belle expression. Il faut aller voir ailleurs comment des gens arrivent à vivre sans forcément être centrés sur le rendement permanent. Et puis aussi le recours à l'histoire pour s'apercevoir que dans le temps, le travail notamment et la valeur travail dont on ne cesse de nous parler ont été bien souvent perçus et vécus comme des fardeaux. Et il fallait en faire plutôt le moins possible au lieu du plus possible. Donc tout cela est effectivement salutaire pour prendre ses distances. Après, il est clair que, par exemple, d'un point de vue du détour anthropologique, il ne faut pas non plus sous-estimer le fait, c'est que la pensée managériale est en train de s'applique un peu partout, j'ai envie de dire. L'économie de marché est en train et a déjà bien colonisé les imaginaires, y compris dans les pays du Sud. Et le problème, il est aussi là, c'est-à-dire que il devient de plus en plus difficile d'y échapper, même si au quotidien, on n'en perçoit pas forcément toujours les bénéfices financiers. Il devient difficile aussi de s'abstraire complètement de ce schéma de pensée-là, y compris en allant pratiquer un détour géographique. Mais néanmoins, je pense effectivement que le recours à d'autres pensées, d'autres modes de vie, d'autres périodes historiques permet de relativiser les choses et contribue à cette mise à distance dont je parlais tout à l'heure. Ouais.
Ok. Et alors, dans ce livre, il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est que vous citez La part maudite de Georges Bataille, un livre que j'incite tous les auditeurs à lire ou à relire. Voilà, c'est aussi un livre d'économie, La part maudite. Très, très opportun de le lire actuellement. En tout cas, merci pour ce livre, L'horreur managériale, gérer, instrumentaliser, détruire, Étienne Rodin. C'est aux éditions L'Échappée. Et puis alors, sans que vous ayez à répondre, puisque c'est un compliment, c'est un livre qui est écrit. Voilà, c'est pas un manuel, il n'y a pas des chapitres super... construit des thèses. C'est un livre qui est juste très très bien écrit et qu'on a plaisir à lire. Voilà, ça c'était le conseil aux auditeurs. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, qu'il faut que tu me touches du bout de ta bouche, me susurre des mots et me suce le cerveau, me suce le cerveau. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive. Il faut que tu me lapes, me tâtes et me battes. Et que tu me chatouilles, et aussi que tu mouilles. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive. Que l'on se fait mourir, et parfois aussi rire. Que l'on se fait mourir, et parfois aussi rire. Il faut que l'on se calme, et du coin de nos palmes, qu'on se caresse, là du bout de nos fesses, et qu'on respire, la tête contre nos cuirs, la tête contre nos cuirs. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, et te dire pardon. Pour mes nombreux silences qui te pètent les plombs, et mon absence immense, et mon absence immense. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive. Ma chemise s'étiole de ton doux vitriol. Que tu m'injectes sans tact, j'affiche éjecte, contact. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, il faut que je te dise qu'il faut que je t'écrive. Ça pèse sur mes bras, comme vent dans les bois. Ça pèse sur mes bras,
comme vent dans les bois. Il faut qu'on fasse à face et que l'on prenne place, et que l'on prenne place. Il faut qu'on fasse à face et que l'on prenne place, que l'on prenne place. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, que l'on s'est en battu, que l'on s'est en vaincu, chaque jour et partout, aussi là dans la rue, à trop. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive, il faut que tu me lapes, me tâtes et me battes, et que tu me chatouilles et aussi que tu mouilles. Il faut que je te dise, il faut que je t'écrive. Vois là sur mon visage, ma peau perd son plumage, mes cheveux se poivrent grises, je me jette dans la Tamise. Voilà sur mon visage, ma peau perd son plumage, mes cheveux se poivrent grises, je me jette dans la Tamise. C'est acidé, c'est rance, les sentiments, ça ronge, les sentiments, ça ronge. Dans la nuit sombre où plonge, la dureté en cadence, allez danse, la dureté en cadence, allez danse.